Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette première soirée de partenariat entre la Bibliothèque publique d'information et la revue Books. Quelques mots peut-être en introduction sur ce partenariat. La BPI du Centre Pompidou est une bibliothèque et c'est une bibliothèque d'actualité qui, au cours de ces débats, présente toute une série de réflexions sur des questions de société. Donc elle ne pouvait qu'être heureuse d'accueillir la naissance de cette nouvelle revue, Books, une revue d'actualité par les livres du monde. Et ça a été donc le début d'une collaboration que nous espérons fructueuse, qui aura lieu à périodicité trimestrielle cette année, et qui débute par un débat animé par Olivier Postel-Vinet, qui est fondateur et directeur de la revue, avec trois intervenants pour parler des nouveaux murs. Je vais laisser Olivier Postel-Vinet les présenter, mais je voulais eux aussi les remercier d'être là. Alexandra Novoselov, Zvetan Todorov et Sylvain Sipel. Merci beaucoup.
Bonjour, merci Emmanuel Payen, la BPI et Beaubourg de nous accueillir ce soir. Emmanuel Payen m'a demandé de commencer en guise d'introduction, avant de passer au cœur du débat, de présenter le magazine Books, mais peut-être qu'avant, par politesse, avant de présenter un objet, je présente rapidement les êtres animés qui m'entourent. Donc Alexandra Novoselov, qui est ici parce que elle a écrit un ouvrage, ou co-écrit un ouvrage, qui est en fait une sorte de reportage sur les murs qui agrémentent les frontières séparant un certain nombre de pays, et ce qui montre que cette idée que cela vaut la peine de s'intéresser à l'ensemble de ces murs en tant que tels n'a pas attendu Books pour se manifester. À ma droite, Tsvetan Todorov, qu'il est difficile de présenter tant son itinéraire est riche, et qui est surtout venu ce soir en tant que, un mot que peut-être il n'aime pas beaucoup, mais qu'on peut quand même utiliser, disons, philosophe, et auteur d'un livre, c'est son avant-dernier livre, qui s'intitule « La peur des barbares ». C'est l'une des questions posées, de savoir dans quelle mesure cette notion de peur des barbares s'applique à l'érection de murs. Et Sylvain Sipel, à sa droite, est actuellement le correspondant du Monde à New York. Et il a écrit, il y a déjà quelque temps, un livre qui existe aujourd'hui en livre de poche, dans une version miniaturisée, en quelque sorte, tant les caractères sont petits, mais qu'on peut sans doute encore trouver sur Internet dans une version plus lisible, qui s'appelle « Les emmurés », et qui est une réflexion sur la manière dont les Israéliens d'un côté et les Palestiniens de l'autre vivent le rapport à l'autre et ont ces dernières années concrétisé ce rapport à l'autre du côté israélien en érigeant le fameux mur donc en territoire palestinien. Alors, rapidement, Books, mais je ne vais pas m'étendre longtemps parce que ce n'est pas l'objet de la soirée, mais puisqu'on me fait le plaisir de me proposer d'en parler deux mots, je ne pense pas que... Tiens, quand même un petit sondage, on n'est pas à l'école, mais tout de même, qui dans la salle connaît le magazine Books?
Ah,
quand ouais. Quand même. Ah bah. Plutôt plus que ce à quoi je m'attendais. Bon, donc je vais peut-être modifier un peu mon discours en fonction de... Donc il ne la connaît pas, donc tout de même à peu près un quart de la salle ne connaît pas le magazine Books, donc je m'adresse surtout à eux, mais peut-être que ça intéressera aussi les autres d'avoir un exposé rapide. Donc Books est une sorte de magazine du troisième type. C'est un oiseau rare et... un peu inattendu, je crois, dans le monde de la presse, dont on m'a annoncé quand je souhaitais le lancer qu'il ne pourrait jamais marcher, que c'était une idée absurde et aberrante. Nous allons fêter notre premier anniversaire dans un mois et j'ai bon espoir que la marque s'installe et que le journal continue de progresser et de trouver ses lecteurs. L'idée, le concept de Books, c'est de présenter, enfin de nous inviter à lire plus exactement le monde et nous-mêmes, le monde et nous-mêmes, à travers les livres qui se publient dans le monde et plus exactement à travers les articles de haut niveau, les meilleurs articles que nous trouvons qui parlent de ces livres. Alors, les trois mots clés là, c'est le mot livre, le mot article, le mot monde. Et pourquoi faire un magazine en fonction de ces trois mots clés, de ces trois critères? Pourquoi le livre? D'abord le livre parce que depuis la nuit des temps, du moins depuis que l'homme sait écrire, le livre est par excellence le lieu où l'homme inscrit le plus profondément sa pensée, ses émotions, ses sentiments, ses intuitions, et que cette réalité demeure depuis Sophocle, Platon en Occident, depuis Confucius et en dépit d'Internet, dirais-je. C'est encore dans le livre que l'homme s'exprime avec le plus de profondeur, la plus grande rigueur, en tout cas dans les bons livres. Et le livre est donc le gisement dans lequel on a le plus de chances de trouver des idées intéressantes et des éclairages originaux sur ce qui se passe dans le monde et sur ce que nous sommes. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas lire tous les livres, même pas tous les bons, et c'est la raison pour laquelle nous regardons par priorité, ça nous arrive quand même de lire des livres, mais nous regardons par priorité les articles que nous trouvons dans la presse mondiale, des revues de différents pays, sur des livres. Les meilleurs articles, pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'articles quelconques sur les livres et beaucoup de livres quelconques, mais il se publie de manière régulière d'excellents textes qui sont écrits souvent eux-mêmes par des auteurs, par des gens qui ont écrit des livres et qui donc parlent d'autres auteurs en connaissance de cause. Du moins, on peut l'espérer et le vérifier. Et ces articles constituent un filtre qui nous permet donc de sélectionner les livres qui nous paraissent les plus intéressants, mais aussi un discours sur les livres ou sur les sujets traités par les livres qui donne une seconde couche de profondeur, une seconde couche de grain à moudre pour reprendre le titre d'une émission qui nous est chère, sur les sujets traités. Pourquoi les articles, les meilleurs articles dans le monde entier? Eh bien parce que évidemment, on aurait pu imaginer de faire l'exercice à partir des livres qui paraissent en France et des articles qui paraissent sur les livres qui paraissent en France, traduits ou non. Il nous a paru particulièrement intéressant d'ouvrir les fenêtres très largement, de faire venir le vent du large, au risque peut-être, ou pour le plaisir, de bousculer certaines de nos habitudes de pensée, certaines de nos idées qui paraissent les plus établies. Book, c'est donc offre à la fois un regard sur le monde et sur nous-mêmes, et c'est aussi une nouvelle idée du débat d'idées. Donc, il faut voir cette relation entre ce regard excentré, cet regard excentré sur les choses que nous croyons savoir, que nous croyons connaître, sur le monde tel qu'il est lu par les auteurs de livres dans le monde et par ceux qui écrivent des articles sur le monde. Et puis, une nouvelle conception du débat d'idées qui se moque des frontières qui cherche à repousser les idées courantes ou les plus courantes qui sont véhiculées par les médias qui nous sont familiers. Je dis ça sans évidemment viser aucunement le grand journal que Sylvain Sipel représente ici. Tous les sujets nous intéressent, donc nous sommes omnivores, nous nous intéressons aussi bien à la poésie qu'aux relations internationales, à l'économie qu'à la musique. Nous nous intéressons aux sciences, nous nous intéressons aux questions militaires et et le magazine est conçu comme un magazine, c'est-à-dire qu'on y trouve des articles longs, des articles courts, on y trouve un dossier, on y trouve des rubriques, on y trouve des interviews, on y trouve des photos, parfois des dessins. Et nous essayons ainsi chaque mois de mettre en scène un petit spectacle donne sur toute une série de sujets. On évoque environ 200 livres par numéro, toute une série de sujets, des aperçus nouveaux, inédits, qui nous paraissent originaux. Cet été, nous avons fait un numéro sur un avec un titre un petit peu insolent qui était Internet rend-il, je n'arrive pas à présenter ça, Internet rend-il encore plus bête. C'est un numéro qui a très bien marché. C'était un dossier sur la manière dont Internet bouscule notre culture. La question étant de savoir dans quelle mesure Internet est vraiment en train de provoquer une révolution dans notre manière de vivre la culture, dans notre manière d'appréhender l'information, le livre et les différentes voies d'accès au savoir. Et le dernier numéro, celui qui est en vente actuellement, porte sur le sujet de ce soir, donc sur les nouveaux murs. L'idée de ce sujet nous est venue du fait nous fêtions l'anniversaire, le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et au lieu de traiter ce que nous aurions pu faire, les enseignements de cette chute du mur, nous avons voulu aller un peu au-delà et présenter un phénomène assez impressionnant, assez douloureux aussi, qui est le fait que depuis la chute du mur de Berlin, on a vu s'ériger dans toute une série de parties du monde de nouveaux murs faits en dur ou en fil de fer barbelé, destinés à séparer beaucoup plus que ne le font les frontières habituelles des populations. Pour des raisons diverses, nous allons y venir. Alors, Alexandra Novoselov, vous avez vous-même, avant nous, été explorer certains de ces murs, et beaucoup d'entre eux même, puisque vous avez vu presque tous, et vous en avez fait un compte-rendu qui est une forme de reportage avec texte et photos dans ce livre qui est, je crois, derrière mon ordinateur.
Tout à fait. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité pour vous parler de ce livre et puis de ce sujet. Alors je suis, moi, pour ma part, plutôt spécialisée sur les Nations Unies. Mais on a décidé avec un ami de faire ce livre pour allier un peu notre passion de la photographie et puis nos connaissances en géopolitique et en relations internationales. Et on a fait en quelque sorte ce tour du monde des murs et dont l'idée venait du Sahara occidental, où on a constaté au cours d'un voyage, en cours de vacances en réalité, qu'il y avait un mur long de plus de 2000 km de long et qui était totalement inconnu. On s'est dit, ça, c'est un sujet, alors qu'on nous rabâchait après la chute du mur de Berlin, le nouvel ordre mondial, l'ouverture des frontières, etc. Et on s'est aperçu en faisant un certain nombre de recherches qu'en réalité, il y avait toujours des murs qui existaient, qui étaient là d'ailleurs presque avant la chute du mur de Berlin, enfin avant le mur de Berlin et avant sa chute, bien entendu, mais aussi des murs de nouveaux murs qui s'érigeaient. Et donc, ça a été aussi une vraie réflexion sur le monde d'aujourd'hui et sur les fractures de la mondialisation. Une mondialisation qui est à rebours et d'un monde qui est loin, très loin d'être homogène. Alors sur le temps qui m'est imparti, je vais vous présenter un peu de manière globale ce qu'on a retenu de ce phénomène-là. En disant tout d'abord que, bien entendu, ce phénomène n'est pas nouveau, n'est pas un phénomène des 20e et 21e siècles, mais que toutes les époques et tous les continents ont eu leur mur. Alors, quelques exemples historiques très connus. Alors, bien sûr, il y a eu la Grande Muraille de Chine qui a été construite à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais avant ça, il y avait aussi un mur. On dit que Alexandre le Grand a construit un mur au 4e siècle avant Jésus-Christ pour éloigner les barbares entre les montagnes du Caucase et les berges de la mer Caspienne. Il y a eu aussi les murs, ce qu'on a appelé les murs romains des empereurs Adrien, Antonin et Trajan, qui faisaient partie du limès construit par l'Empire romain pour contenir les barbares venus du nord, de l'est et du sud, et qui ont été en fait très vite abandonnés une fois que le centre de l'Empire a commencé à s'effondrer. Puis il y a toutes les murs, les forteresses, les citadelles du Moyen-Âge. Et puis, au XXe siècle, il y a bien sûr le mur de l'Atlantique et tout ce qu'on appelait comme des lignes Maginot, la ligne Siegfried, les lignes Pédron et Maurice en Algérie en particulier. Mais on peut dire que jusqu'à la moitié du XXe siècle, tous ces murs-là avaient une fonction défensive au sens militaire du terme. C'est-à-dire qu'il s'agissait de repousser les barbares au-delà des frontières ou de se défendre contre des armées ennemies. À partir de là, je crois que le XXe siècle invente un nouveau mur qui apparaît à la suite de guerres civiles et qui sépare un même peuple qui a le malheur de se trouver sur un territoire contesté. Et c'est ce que nous montrent les exemples de Chypre, du Cachemire, de la Palestine, du Sahara occidental, voire de l'Irlande du Nord. Et c'est là-dessus aussi qu'on a voulu mettre l'accent dans notre livre. Sans, bien sûr, oublier ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux murs, et que le XXIe siècle, on peut dire, a inventé, c'est-à-dire en réalité des frontières qui s'emmurent pour faire face à de nouvelles peurs, type immigration, terrorisme, pauvreté. Alors on trouve cela par exemple, à la frontière entre le Botswana et le Zimbabwe, à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Tout ça, c'est des murs pour enrayer l'immigration, le flot de l'immigration. Il y a aussi un projet de l'Arabie saoudite qui a décidé de fermer ses frontières avec l'Irak et le Yémen. Il y a un projet récurrent des autorités pakistanaises de construire un mur de barbelés sur leur frontière avec l'Afghanistan. Et puis, il y a aussi une autre réalité qui a commencé à émerger, dont on n'a pas réellement rendu compte dans le livre, parce qu'elle est en réalité beaucoup plus diffuse, qui est cette réalité de murs temporaires qui se construisent dans des villes en guerre, comme à Kaboul ou à Bagdad, dans des villes qui reçoivent pour un temps un sommet international, un G8, un G20 ou autre, et dans des villes du Sud, dans toutes les grandes mégalopoles du Sud, où vous voyez un certain nombre de quartiers riches qui s'emmurent, ce qu'on appelle les gated communities. Alors on a donc deux grands types de murs. On a des frontières qui se renforcent et deviennent des murs, et puis on a des murs qui sont érigés de manière unilatérale et qui deviennent des frontières, et c'est le cas en Israël et au Cachemire notamment. Donc on a une cohabitation entre ces nouveaux murs et ces anciens murs. Alors, qu'est-ce qui pousse en réalité les hommes à se murer et à s'emmurer, comme l'a très bien montré Sylvain Sipel dans son livre? Je crois qu'il y a trois grandes fonctions qu'on peut assigner au mur. Il y a la première fonction, qui est bien sûr la fonction de protection, mais d'une protection dans une logique sécuritaire et de court terme. Et ce, en dépit de moyens exorbitants dépensés à cette construction. Les États-Unis vont dépenser près de 50 milliards de dollars à la construction, au renforcement et à l'entretien de la barrière qu'ils construisent sur la frontière. Le mur en Palestine coûte entre 2 et 2 millions d'euros le kilomètre. Donc c'est des sommes très importantes. Alors, en dépit de ce coût, il s'agit de rassurer une opinion publique qui est traumatisée et qui veut des résultats concrets et rapides. Et on le voit en Israël, aux États-Unis, en Inde et dans les enclaves, autour des enclaves espagnoles au nord du Maroc. La deuxième fonction, c'est celle du maintien du statu quo, voire de la consolidation du fait accompli. Alors ça, c'est bien sûr dans les cas où des murs ont été érigés à la suite d'un conflit ou d'une guerre civile. Et il s'agit là de définir des limites territoriales, des zones d'influence et de pérenniser un fait accompli. C'est ce qui se passe au nord de Chypre, au Sahara occidental et, encore une fois, dans les territoires palestiniens occupés. Et la troisième fonction, qui réunit un peu les deux premières, c'est la fonction de séparation, c'est-à-dire que l'on se protège en se séparant. On se protège en s'emmurant et en s'enfermant. On repousse en réalité l'autre, de l'autre côté du mur, celui, l'autre, c'est-à-dire l'inconnu, l'incompris, le dangereux, le malheureux. On se sépare en niant même l'existence de l'autre, car la construction d'un mur est toujours un acte unilatéral. Et comme le rappelle Michel Fouché, je crois d'ailleurs dans une des interviews qu'il vous a donné, le mur est aussi une figure de l'interdiction. C'est l'interdiction de sortir, l'interdiction d'entrer, l'interdiction d'agir. Et cette séparation est à la fois, bien sûr, voulue et subie. Et il y a par conséquent toujours un bon côté et un mauvais côté du mur. Un bon côté qui minimise les effets du mur, qui essaye même de cacher son existence et qui ne l'appelle jamais par son nom. En Israël, on appelle ça la clôture de sécurité. En Inde également, etc., etc. La ligne verte et que sais-je d'autre. Et puis, il y a un mauvais côté du mur qui dénonce, qui tente de dénoncer ce mur et ses effets, qui souffre de sa présence parce que cette présence rend la vie éminemment compliquée, beaucoup plus compliquée. Et on se sépare aussi pour vivre un peu dans son coin du monde, qui devient de ce fait aussi de plus en plus réduit. Alors c'est on se sépare et c'est aussi une solution de facilité. Plutôt que de résoudre le problème, par nature extrêmement complexe, au regard de tous les conflits qu'on a devant les yeux avec ces exemples, on contourne, en fait. On contourne le problème en construisant un mur. Et je crois que ça, c'est le signe de l'échec de la politique. Et un célèbre avocat israélien, Daniel Zeidemann, disait « Un mur est un monument élevé à l'échec de la politique ». Encore plus fondamentalement, je crois, c'est aussi « Un mur apparaît à chaque fois qu'une culture ou une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre, à se penser avec l'autre ». Là, je cite un petit livre qui avait été écrit sur « Des frontières sans murs et des murs sans frontières ». Alors on peut logiquement, après ce constat, poser la question de l'efficacité des murs, en même temps qu'on y répond quels sont les effets aussi de ces murs et sur les populations qui sont directement confrontées. Alors, on ne peut nier, je crois, dans un premier temps, l'efficacité de ces murs en termes de protection sécuritaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le mur en Israël a réduit le nombre des attentats en compliquant sérieusement la circulation des personnes, bien que, en parallèle, l'autorité palestinienne de Yasser Arafat avait décidé de stopper les actions terroristes contre-productive et qui délégitimise sa cause. Les murs de sable au Sahara occidental ont arrêté les incursions des forces du Front Polisario. Et puis, le mur de Barbelé sur la ligne de contrôle au Cachemire a arrêté le flot des militants djihadistes débarquant dans la partie contrôlée par l'Inde. Mais cette efficacité est en réalité temporaire. Un mur, c'est toujours contournable et contourné. Et parce qu'un mur, ça attise les contournements. Et on l'a vu avec l'exemple de Gaza, le mur est contourné par le lancement de roquettes et par les tunnels. Le mur sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis n'arrête pas non plus le nombre d'immigrants voulant passer tous les jours la frontière. Et aujourd'hui, il y a 12 millions d'immigrés clandestins aux États-Unis. Il y a toujours près de 500 000 immigrés qui tentent de faire le voyage chaque année. Alors, si le mur peut être contourné, c'est qu'il est forcément inefficace. Et je crois que son effet, l'effet sur le long terme, est contre-productif, car il crée une rancœur, il crée un sentiment de frustration et voire de désespoir. Et il impose aussi une vision, je crois, binaire à des problèmes infiniment complexes. Et on peut en conclure que les murs sont sur le long terme en réalité un piège, autant pour ceux qui sont censés être protégés que pour ceux qu'il a pour objectif de maintenir à l'extérieur. Et c'est de la part des États les plus puissants, parce qu'on peut constater que les nouveaux murs sont érigés par des États puissants, les États-Unis, l'Espagne, l'Inde, Israël. C'est un aveu d'impuissance des États les plus puissants. C'est un signe de faiblesse et ça doit aussi nous amener à nous interroger sur le fait que ces murs sont construits par des démocraties. Pour les démocraties, on doit s'interroger bien sûr sur la capacité à gérer ces phénomènes globaux et sur les réponses faciles qu'elles donnent souvent à leurs citoyens. Alors, pour conclure, peut-être par un message de peut-être un peu plus d'optimisme, parce que c'est vrai que le tableau est, est un peu noire, j'en conviens. On peut se demander si les murs d'aujourd'hui sont voués à tomber. C'est vrai qu'avant la chute du mur de Berlin, on n'imaginait pas qu'il puisse tomber aussi facilement. Je crois que ce phénomène-là est aujourd'hui aussi à l'œuvre pour les murs que l'on a devant nous. Les Israéliens, bien sûr, disent que le mur qu'ils construisent pourra être défait un jour, mais en réalité, ils construisent là des frontières, et donc on peut poser cette question. Le mur de Jéricho érigé dans la ville de Nicosie peut disparaître en cas de réunification de l'île, mais les négociations sont très difficiles et en réalité, les murs sont aujourd'hui dans les têtes. Il est aussi très caractéristique de constater qu'à Belfast, ville au cœur de l'Europe, les murs, plus de murs ont été érigés depuis l'accord de paix du Vendredi Saint qu'avant cet accord de paix. Mais je crois que sur le long terme, au regard de l'histoire, le mouvement des hommes est toujours plus fort que la construction des murs, hier comme aujourd'hui. Et comme l'a écrit le professeur Serge Sûr, qui a fait la préface dans notre livre, je crois que c'est une des explications de cette non-pérennité des murs, plutôt, c'est que les murs sont historiquement condamnés parce qu'ils symbolisent la fermeture contre l'ouverture, l'immobilisme contre le mouvement, la mort contre la vie. Et je conclurai juste en disant qu'on peut se demander si la raison aura sur le long terme raison des murs ou des frontières murées. Merci beaucoup.
Merci Alexandra Novoselov. Merci pour cet exposé clair et cette petite note d'espoir in fine. Est-ce que Sylvain Sipel partage cet optimisme tempéré à propos du mur israélien, parce qu'en fait
je pense qu'un jour il tombera. La question, c'est est-ce que ce sera dans un drame, ou je ne sais pas s'il tombera par un drame terrible ou bien par je ne sais trop quel regain ou revitalisation d'un espoir de paix, j'en sais strictement rien, mais je pense qu'on peut effectivement imaginer qu'il ne sera pas pérenne. Il tombera si le mur de Berlin est tombé vraiment. Celui-là est beaucoup, beaucoup plus fragile que le précédent. Voilà.
Quelle est la thèse que vous avez développée la thèse centrale, en quelques mots, que vous avez développée dans votre livre?
La thèse centrale, elle vient d'une surprise. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu à une époque... J'ai vécu les débuts de l'occupation israélienne dans les territoires occupés. Et je pense que si on avait dit à un Israélien, disons, en 1970 ou 1975, à l'époque, je vivais en Israël, si on lui avait dit dans 20 ans ou dans 30 ans, il y aura un mur pour séparer les Israéliens et les Palestiniens, bah, il vous aurait pris pour un fou, quoi. Et donc, j'ai vécu... c'était tout à fait inimaginable. L'érection d'un mur paraissait délirante. D'abord parce que les Israéliens pensaient qu'ils étaient chez eux dans les territoires occupés, ça leur appartenait, puis il n'y avait strictement aucune opposition à leur présence. C'est-à-dire que après la guerre de 67, les pays arabes et les Palestiniens avaient subi une défaite très importante, une défaite militaire, mais surtout politique. Ils n'avaient pas de vision, pas de perspective. L'OLP n'existait pas, en tout cas, elle avait été totalement discréditée dans la guerre de 67 par ses dirigeants. Le Fatah, il y avait 12 personnes qu'elle avait entendu parler. Donc on savait à peine ce que c'était. Et donc vraiment, c'était inimaginable qu'un jour on en arriverait là. Ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est effectivement pourquoi 25 ans plus tard, Harry Sharon, l'idée ne vient pas de Sharon, l'idée vient des travaillistes au départ. Dans l'histoire du sionisme, il y a toujours eu une tendance qui a privilégié la terre, toute la terre, et une tendance qui a privilégié l'État. Et la tendance qui privilégiait l'État était pour la séparation. Les Arabes chez eux et nous chez nous. Et tant pis si on n'a pas toute la Palestine, on l'aura un jour peut-être. Et en fait, Sharon a fait une sorte de, je sais pas comment dire, de synthèse des deux tendances historiques du sionisme, jusqu'au moment où il est arrivé à un échec, et il a accepté à la fois le retrait de Gaza, et puis il a commencé à se dire, mais ça ne va pas marcher, notre occupation. Et donc, il faut faire des faits accomplis qui instaurent un nouveau mode de domination, et c'est là qu'est apparu le mur. Mais le mur n'est apparu... C'est un peu difficile à comprendre, mais je pense que si on regarde avec un, disons, une distance historique, le mur... Il y a un théoricien, enfin un politologue français d'origine iranienne, si je crois, qui s'appelle Bertrand Badi, qui a développé le concept de l'impuissance de la puissance. Et l'impuissance de la puissance, c'est ce qui caractérise le rapport israélien aux Palestiniens. C'est-à-dire qu'il ne peut, sur le plan militaire ou sur le plan du rapport de force, rien leur arriver. Ils bénéficient d'un soutien. Ils ont une économie beaucoup plus développée. C'est un pays démocrate. Ils ont un démocrate pour les habitants juifs, mais c'est un pays démocratique. C'est un pays très occidentalisé. C'est un pays où il y a une intelligence très développée. Ce n'est pas seulement la force militaire. Mais ils ont un soutien diplomatique évidemment overwhelming, comme on dit, énorme par rapport à celui dont bénéficiaient les Palestiniens. Et pourtant, quand on regarde sur le plan historique, sur les 30 dernières années, disons, Israël a gagné toutes ses guerres militairement et a perdu politiquement, systématiquement après. C'est-à-dire qu'Israël n'a plus jamais gagné une guerre après 1967. On peut toutes les reprendre sur le plan politique. Israël n'en a plus jamais gagné une seule. C'est un peu long, mais si ça intéresse quelqu'un, on peut reprendre vraiment tous les conflits armés qu'il y a eu. Ça commence en 73, avec la guerre d'octobre 73, ça date attaque, etc. Évidemment, ils écrasent totalement l'Égypte, ils passent de l'autre côté du canal de Suez. 4 ans après, ils restituent tout le Sinaï qu'ils ne voulaient pas restituer. C'est les accords de Camp David, Cordanix, Carter. Bon, je ne vais pas reprendre toute l'histoire, parce qu'elle est longue, mais borne après borne, Israël gagne militairement et perd sur le tapis politique, de manière systématique. Jusqu'à la fin, Sharon va faire le mur parce qu'il va perdre sur le tapis politique. Parce que quand l'intifada commence, les deux adversaires se trompent. C'est-à-dire que Arafat se dit « nous sommes une société beaucoup plus déterminée ». Ils pensent qu'ils sont les Israéliens de 1948. Ils pensent que sa société tiendra le coup. Parce qu'il a l'exemple de la première intifada où il a gagné. Il n'y est pas pour beaucoup, d'ailleurs. Mais peu importe, le résultat politique, quand commence la première intifada en 87, les Palestiniens jettent des pierres, les Israéliens leur tirent dessus, et pas tant que ça, mais leur tirent dessus, de temps à autre. Il y a des morts, pas beaucoup, par rapport à la seconde, évidemment. Mais l'aboutissement de la première intifada, l'aboutissement politique, Rabin dit on va leur casser les os, et effectivement, de temps à autre, on attrape des jeunes Palestiniens et on leur casse les os. Mais au bout de 6 ans, le résultat politique, c'est que l'État d'Israël, qui expliquait à sa propre population depuis, si je fais le calcul, 93-47, voilà, presque 40, plus de 40 ans, qui disait jamais, 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 nous ne reconnaîtrons l'OLP. Ce sont des nazis, Arafat est la réincarnation d'Hitler. Eh bien, un jour, la population israélienne effarée, à la radio et à la télévision, on lui annonce que chacun a reconnu l'autre. Et d'ailleurs, ils vont certainement recevoir ensemble le prix Nobel. Et voilà, la paix est là. Et embrassons-nous, Folleville. Voilà. Ce qui, pour les Palestiniens, est moins étonnant. Parce que depuis 88, en fait, Arafat n'a cessé de répéter que s'il y a un accord, si chacun reconnaît l'autre, eh bien... Alors que pour les Israéliens, c'est une bombe. Personne ne leur a jamais dit que ça allait arriver. Ce qui montre que tout le monde s'y attend, c'est que dès que ça arrive, ça paraît évident, quoi. À part des groupes ultranationalistes qui crient au scandale, globalement, pour la population israélienne, bah oui, bien sûr. Bah oui, personne... Il y a une partie de l'extrême droite qui s'offusque, mais la première année en Israël, c'est ahurissant. Il faut avoir vécu cette période-là. Alors, à chaque fois, c'est pareil. Ils vont casser, ils gagnent militairement, ils perdent politiquement. Et c'est ça qui va se passer pour que Sharon soit convaincu de prendre l'idée travailliste de la mettre à sa manière et de faire un mur. Quand l'intifada éclate, Arafat est convaincu que la société israélienne ne tiendra pas le coup tant que ça dure, comme la première fois. Ça finira bien politiquement. Il y aura des victimes chez nous, mais on va gagner politiquement. Et les Israéliens sont convaincus, les militaires israéliens, que Barak écoute beaucoup, il est lui-même, sont absolument convaincus que si, cette fois-ci, les militaires disent à Barak, on a perdu politiquement la première intifada parce qu'on n'a pas réprimé comme il fallait. Là, il faut leur en mettre un coup, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et ils vont s'arrêter. Et donc, il faut quand même se souvenir de la première intifada. Je ne parle même pas d'un avion ou d'un hélicoptère Apache, mais aucun tank n'est jamais rentré dans un bourg palestinien. Ça n'est jamais arrivé. C'était des gens qui avaient des gosses avec des pierres et des gens tirés au fusil en face d'eux. Le cinquième jour de la seconde intifada, les Israéliens tirent à partir d'avions Apache. Il n'y a pas eu un seul attentat encore. Le premier attentat palestinien, c'est le 35e jour. Les Israéliens tirent à partir d'un hélicoptère Apache américain des missiles en zone urbanisée à Ramallah. Et les militaires sont certains qu'on va faire ça quelques fois et après ils vont comprendre que cette fois-ci on parle sérieusement. Et évidemment, les deux se trompent. C'est-à-dire que Arafat se trompe parce que Israël n'a pas du tout l'intention de lâcher. Et les militaires israéliens se trompent parce que les Palestiniens, ben, ils vont se réorganiser. Ils ont compris que le jeu a changé de règle et il va y avoir des attentats suicides terrifiants et il va y avoir une auto-organisation de la population parce que malheureusement, l'OLP ne l'organise pas beaucoup, cette population. Tout ça pour dire qu'à la fin, Sharon comprend qu'il est dans une situation où il ne peut plus garder Gaza. Il faut 65 000 militaires pour garder 5 000 colons, pour préserver 5 000 colons au milieu de 1 200 000 personnes disséminées dans cette population qui vivent avec des palmiers et des piscines au milieu d'un semi-bidonville. Il y a 600 000 de ce 1,5 million ou 1,2 million qui sont vraiment dans un état de pauvreté extrême. Et il faut 65 000 soldats. Ça va un moment. Mais si, tant que le conflit perdure, c'est impossible à gérer. Et donc, alors qu'il avait donné une grande interview quand il devient Premier ministre, où il avait clairement dit « Jamais, 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 nous ne quitterons Gaza. Jamais. On ne quittera pas sous la pression. » Donc, tant que les Palestiniens n'arrêtent pas, pas question de lâcher Gaza. Et s'ils arrêtent, pourquoi voulez-vous qu'on lâche Gaza? Donc, il n'en est pas question. Trois ans et demi après, il annonce un retrait de Gaza, parce que ça n'est plus tenable. Et il décide le mur en Cisjordanie. Sur le mur, bien sûr qu'il y a des grandes... Ça marche pour le terrorisme, très clairement. Ça met les gens dans une situation, dans un quotidien épouvantable, mais ça marche, c'est efficace. Mais je pense que c'est un mur dont l'objet essentiel n'est pas là. Ce n'est pas le terrorisme. C'est un projet politique. C'est-à-dire que c'est toujours la même... Enfin, c'est une attitude très ancienne dans ce conflit où le côté israélien a un certain nombre d'options, comme tout bon militaire d'ailleurs, et où donc il y a l'option maximale, idéale, on peut garder tous les territoires. Mais il faut bâtir quelque chose, on ne sait jamais. Il peut y avoir des pressions américaines, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Si demain on doit faire en Cisjordanie ce qu'on a fait à Gaza, à ce moment-là, il faut faire un tracé. Et ce tracé, c'est évidemment montrer quelle sera la ligne de repli maximale israélienne. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est de manière unilatérale de mettre Jérusalem entièrement, y compris la partie arabe, du côté d'Israël. Et 80% des colonies qui ont été construites. C'est pour ça que le tracé du mur, c'est absolument extravagant de regarder le suivi précis de ce mur. C'est un tracé qui est un tracé géopolitique. Ce n'est pas se protéger des barbares. C'est aussi, bien sûr, se protéger des barbares. Mais c'est beaucoup plus complexe. Et il y a un truc fondamental, c'est les nappes phréatiques. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous voyez vraiment le mur, il est comme ça, et brusquement, il fait comme ça, parce que là, il y a une nappe phréatique. Et donc, il va tout droit, et hop, il contourne, il continue tout droit.
De l'eau.
Pardon ?
De l'eau. De l'eau.
Oui.
Oui, de l'eau. Sylvain Sipel, avant de passer la parole à Tzvetan Tonorov, un mot pour conclure sur le sens du titre de votre livre, Les Emmurés.
Oui, c'est un peu ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire que je pense que les emmurés physiquement sont les Palestiniens. Il faut y avoir été et avoir vu pour se rendre compte. Le mur est une allégorie, c'est-à-dire qu'il y a des... D'abord, le mur entre Israéliens et Palestiniens n'est pas toujours un mur. Ça peut être un fossé, ça peut être des barbelés, ça peut être... On dit le mur, c'est parce que c'est une expression générale, si vous voulez. D'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes disent la muraille de sécurité. Mais souvent, ce n'est pas une muraille. C'est un large fossé. Enfin, il y a toutes sortes de moyens de se protéger. Ce n'est pas l'élément clé. J'ai perdu le fil.
Ben, la question.
Pourquoi ? Oui, ça y est, j'y suis. Et donc, si vous voulez, c'est pour placer ces gens dans une situation de vie impossible. Un mur a deux faces. Le mur a deux faces, c'est que les Israéliens s'emmurent en emmurant les autres. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent précisément dans la situation qui prévalait et dont ils rêvaient de s'émanciper. Ils étaient le dos à la mer et il n'y avait aucune option possible, à part regarder du côté de la mer. Et donc la crainte d'être éjecté de cette région. Ils avaient réussi à faire une ouverture avec Oslo. Ils avaient eu au précédent la paix avec la Jordanie, la paix avec l'Égypte. Ils savaient que pour ça, il faut rendre les territoires. Voilà. Sans restitution des territoires, il n'y aura pas la paix. Ils ont, pour X raisons qui les concernent, décidé de ne pas le faire dans le cas palestinien, qui sont des raisons fort complexes. Au bout de, disons, il y a 15 ans, se sont passés depuis la signature de l'accord d'Oslo. Beaucoup d'occasions ont été ratées, par les Palestiniens un peu, par les Israéliens énormément, à mon sens. Et aujourd'hui, ils se retrouvent emmurés comme jamais, parce que ce mur a deux faces. Moi, j'ai vécu une période où on allait à Jéricho manger un houmous, où on allait sur le bord de la mer morte, passer une après-midi au soleil et au bord de la mer. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment absolument extraordinaire où on n'avait pas peur de rentrer dans un souk arabe pour acheter ce qu'on voulait, des babioles, etc., etc. Et quand je disais aux Israéliens, les Israéliens disaient, ben, vous voyez bien, on occupe la Jordanie, mais il ne se passe rien. Et un Premier ministre qui s'appelait Lévi Eshkol avait dit, 3 semaines après la victoire de 67, il avait dit, bon, ils ont reçu un tel coup sur la tête. Il avait dit en petit comité, à la direction du parti travailliste, hein, pas publiquement, évidemment. Et il leur avait dit, bon, aujourd'hui, ils ont eu un coup sur la tête, mais quand il y aura une nouvelle génération, aucun peuple n'accepte d'être occupé. Qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra bien un moment qu'on lâche les territoires. Ils ont cru qu'ils ont cru pouvoir mettre en place des faits accomplis qui rendraient la chose caduque. Et malheureusement, ils en sont aujourd'hui dans une situation où on ne peut plus aller dans un seul souk arabe, où ils ne peuvent plus. Ils se sont emmurés. Ils ne peuvent plus aller manger un houmous à Jérusalem-Est. Je ne parle même pas d'aller au bord de la mer. Voilà, on ne sort plus de chez soi. En 1969, il y a sans doute le plus grand dramaturge, enfin l'homme de théâtre, le meilleur homme de théâtre qu'Israël a produit, qui s'appelle Hanoch Levin, et qui a eu des pièces qui ont été montées en France, surtout à Londres, qui avait écrit une pièce, je vais terminer là-dessus peut-être, qui avait été évidemment considérée comme scandaleuse et qui, disons que c'est le même mot en hébreu pour dire la salle de bain et les toilettes. Et donc il avait écrit une pièce qui s'appelait La reine de, alors on peut entendre la reine de la salle de bain ou la reine des chiottes. Et donc c'était l'idée d'une famille qui vivait avec un cousin qu'ils accueillaient chez eux. Et le cousin était invivable, quoi. Ce type était sale, il était énervant, il sortait de la douche et puis il marchait avec les pieds mouillés, il mettait de l'eau partout, enfin. Et donc, au fur et à mesure, il lui interdisait l'accès d'un certain nombre de pièces. Mais donc, l'appartement se rétrécissait au fur et à mesure, parce que, parce qu'il fallait bien qu'il lui ait un peu d'espace. Et finalement, il y avait un endroit qui lui avait définitivement interdit d'entrer, c'était les toilettes. Et donc, toute la famille, les parents, les enfants, se retrouvaient tous coincés dans les toilettes. Et la fin de la pièce, c'était l'homme disait, oh là, ça pue horriblement ici. Et la femme répondait, ça pue peut-être, mais on est chez nous. Voilà.
Bon, ça, je ne sais pas si c'est une conclusion qu'on pourrait qualifier d'optimiste.
Non, non.
J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Tsvetan Todorov, peut-être de manière liminaire, c'est le cas de le dire, vous pourriez dire un mot sur ce mur qui a aussi été érigé dans des conditions invraisemblables et pour des motifs surprenants, qui était le mur de Berlin, que vous avez connu de manière que vous avez vécu, en fait, puisque, oui. Puisque quand vous étiez jeune, vous étiez
de
l'autre côté, si l'on peut dire.
Je voudrais poser une question à Sylvain.
Vous en priez.
Tu crois que c'est possible? Est-ce que quand toi tu allais au bord de la mer morte, est-ce que l'arabe du coin pouvait venir boire un verre à Tel Aviv?
Moi, il y avait, par exemple, ça dépendait où et chez qui. Moi, mon fils, on avait un ami arabe de l'université, alors évidemment, comme il avait dit à sa tante un jour, il avait 5 ans, il avait demandé à ma tante, Tati, tu connais Nasser? Alors elle avait répondu, bah oui, Nasser, c'est un homme politique très connu. Ah bon? Il a dit, tu connais le copain à papa? Alors non, c'était pas du tout ce qu'elle pensait. Alors elle était terrorisée que je puisse avoir un copain arabe, lequel Nasser était un fou de kung-fu, etc. Il amenait mon fils à 5 ans en vieille ville arabe, il lui montrait des films. Mon fils avait passé une semaine chez lui, dans sa famille, dans un village arabe. Quand il était parti, les parents lui avaient demandé « Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que tu étais une semaine chez nous ?» Et mon fils, qui avait 8 ans à l'époque, avait répondu « Non, je dirai aux copains que j'étais dans un kibbutz. » Et alors, il lui avait dit « Mais pourquoi tu ne diras pas la vérité ?» Il avait dit « Parce qu'ils ne pourraient pas comprendre. Ils ne peuvent pas imaginer que j'ai passé. » Donc, c'était ambivalent quand même. C'est-à-dire, les Israéliens étaient en territoire conquis, mais ils n'avaient pas peur. Donc ils y allaient, se baignaient sur la mer morte. Mais il y a eu quand même pendant un an et demi, quelque chose d'incroyable en 93-94, vraiment. Il y a eu des gens, il y a eu un mouvement vers l'autre absolument sidérant. Ça a duré, c'était court, ça a été stoppé par l'attentat commis par un colon israélien au caveau des Patriarches, où il tue 29 musulmans en train de prier. Et après c'est fini. Mais il y a eu un mouvement, il y a eu des profs qui se rendaient visite, il y a eu des choses tout à fait étonnantes, un court temps, voilà.
Donc le Kidam n'y allait pas vraiment.
Le Kidam y allait, mais sans rencontrer d'arabe.
Il rentrait, je veux dire, au restaurant. Le Kidam arabe.
Le Kidam arabe avait du mal à venir, voilà. Oui. Il avait du mal à venir, oui.
C'était pas tout à fait symétrique.
Non, c'est pas du tout symétrique, pas du tout.
Bon, alors... On ne tourne jamais cette page-là, mais on arrête de parler 10 minutes du mur israélien,
oui,
parce
oui,
que je ne peux rien dire de plus et de mieux que ce que vous deux en avez dit. Et je vais effectivement aller un peu en amont et un peu en aval par rapport à cet exemple qui occupe beaucoup les esprits. Le point de départ, c'est... Déjà de ce numéro de la revue Books qui est cher à mon cœur, le point de départ, c'est les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Et je dirais que cette chute a une signification bien au-delà de le simple démantèlement d'une maçonnerie. D'abord, bien sûr, parce que la chute a instauré la libre circulation de la ville, dans la ville. Ensuite, qu'elle a permis la réunification de l'Allemagne, ce qui était tout de même un gros morceau. Que plus généralement, on considère la chute du mur de Berlin comme le symbole de l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est, et donc comme la promesse et ensuite la réalisation de leur intégration dans l'Union européenne, ce qui a changé la carte du monde. Mais je dirais qu'il y avait encore une signification plus globale encore que celle-là, et c'était que depuis près de 150 ans, le monde entier avait été sensibilisé à une utopie, à un espoir qui était d'apporter le salut sans passer par Dieu. Il s'agissait donc d'une religion, mais séculaire, séculière, qui promettait la réalisation du paradis sur terre. Et c'était le communisme. Quand je dis que cela touchait au monde entier, je sais bien que le communisme ne s'était pas installé comme régime dominant dans le monde entier, mais à son maximum, disons en 1950, il couvrait tout de même un tiers de la planète. Mais en dehors de ce tiers, les autres régimes devaient se définir aussi par rapport à lui. L'apartheid en Afrique du Sud trouvait sa légitimité dans le fait que c'était un mur contre le communisme. Les dictatures militaires en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, étaient défendues, érigées, soutenues parce que cela permettait d'arrêter la progression des idées communistes. Indonésie, 35 ans de dictature sanglante au nom du combat contre le communisme, etc. Donc, c'est cette immense page de l'histoire qui a été peut-être pas tournée, mais en tout cas dont on a commencé à voir qu'elle allait être tournée, le 9 novembre 1989, ce type d'espoir a disparu. Ceux qui, pendant 150 ans, au début sous une forme clandestine, marginale, et au milieu du XXe siècle, sous une forme triomphante, fin de la Deuxième Guerre mondiale, victoire de la Révolution en Chine, etc., tout cela, on n'en parle plus. C'est sur cet événement que je voudrais insister maintenant, mais d'un autre point de vue. Avant d'arriver à ce qui me semble être la contrepartie de cette disparition, de cet événement géopolitique gigantesque, je voudrais dire un mot des murs, effectivement. Et j'ai écouté, évidemment, avec énormément d'intérêt ce qui s'est dit autour de cette table, des choses parfaitement justes. Je rappelle à mon tour que le mur de Berlin avait cette particularité d'être un mur qui empêchait les gens de sortir et non pas les gens d'entrer. Alors que l'immense majorité des murs étaient des murs qui empêchaient les gens d'entrer. Tous les murs dont a parlé Alexandra Novoselov, enfin presque tous, étaient de tels murs. Le mur de Berlin, qui, disait-on, était destiné à protéger le camp socialiste des incursions venues du camp capitaliste, en réalité, très rapidement, est devenu une matérialisation de ce qu'on appelait déjà depuis quelque temps le rideau de fer, c'est-à-dire ce qui empêchait les habitants des pays de l'Est de les quitter. Et effectivement, à la frontière, on tirait à vue. Il n'était pas possible de sortir. Ne me demandez pas comment je me trouve en France après ça, mais je peux expliquer. Dans les nouveaux murs qui se sont érigés depuis, mis à part le mur israélo-palestinien qui est très particulier, ne serait-ce que en ce qu'il est à la fois un mur de protection et un mur de prison, comme Sylvain Sipel vient de le rappeler, et il est particulièrement frappant à cet égard. Mais en dehors de cela, il me semble que les murs les plus caractéristiques de notre époque qui touchent le monde, disons l'Occident, mais en fait plus largement le monde, ce sont les murs anti-immigrés. Et les murs anti-immigrés sont une relative nouveauté. Parce qu'il y a des siècles, les individus pouvaient traverser les frontières avec beaucoup moins de formalité que cela n'est devenu progressivement vrai au XXe siècle et de plus en plus vrai de nos jours. Je ne peux pas entrer dans le débat, si débat il y a, sur l'utilité de ces nouveaux murs. Je pense qu'Alexandra Novoselov l'a dit. On contourne tous les murs, sauf que ça devient de plus en plus risqué, de plus en plus difficile, mais on le fait quand même pour une raison. Pourquoi ? Pour une raison tout à fait évidente, c'est qu'on est payé d'un côté du mur 1 et de l'autre 100. Quand on meurt de faim d'un côté, on est prêt à tout pour aller de l'autre côté du mur. Rien ne peut vous arrêter. Ce mur conduit à cette situation que nous connaissons très bien par la télévision, mais quand même, qui est que nous acceptons des clandestins, mais à condition qu'ils aient vraiment risqué leur vie sur des embarcations de fortune en Méditerranée ou dans l'océan Atlantique, et que si la moitié, par exemple, s'est noyée, ben l'autre moitié, on est prêt à leur accorder l'asile. Il y a une sorte de prime au risque de mort qu'ont pris ces réfugiés. Et ma foi, les survivants, on veut bien les accueillir. Ce qui me paraît être une des formes les plus cruelles de l'accueil de l'étranger sur son sol. Déjà, parce qu'on a postulé au départ que l'étranger est une sorte de criminel. En effet, et c'est un autre versant du même fait, vous savez aussi tous, je pense, que c'est un crime en France que lorsqu'un mendiant dans la rue vous demande quelque chose, de le lui donner sans lui avoir demandé ses papiers auparavant. Parce que si c'est un sans-papier, vous êtes coupable d'aide à un étranger illégal et vous risquez 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ce n'est pas une plaisanterie, quoi qu'en disent les représentants de notre inénarrable ministère de l'Identité nationale. C'est en ce moment même qu'un cinéaste, qui s'appelle José Chidlowski, qui a fait un film sur les sans-papiers, est inculpé, car il a donné asile à une sans-papier qui était présente dans son film pendant une nuit. Donc, il risque demain d'aller en prison. Voilà quelles sont les conséquences concrètes de cette politique qui ne veut pas s'autoriser d'examiner la circulation des immigrés plutôt que leur simple séparation par un mur. Ce mur était-il incarné dans la mer Méditerranée? Mais je voudrais, dans les 2 minutes et demie qui me restent, revenir au sujet engagé au début, celui de la disparition du grand messianisme séculier qui avait été le communisme, et de me demander, mais par quoi est-il remplacé aujourd'hui? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur les murs? Eh bien, il me semble que, de toute évidence, une seule idéologie joue un rôle comparable à celle du communisme dans le passé récent, et c'est l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme est aujourd'hui présent sur les 5 continents, et les dirigeants des pays les plus variés sans réclame. D'ailleurs, la différence n'est pas aussi radicale entre les deux que cela pourrait paraître à première vue, puisque sur le plan...
Comment ? Il faut voir les Chinois.
Voilà, on peut glisser de l'un à l'autre. Mais aussi, par un autre exemple, c'est que la politique conduite par le bloc occidental, si on doit l'appeler ainsi, qui est conduite au nom de la démocratie et des droits de l'homme, consiste à apporter ses idéaux par la force des armées. Autrement dit, c'est un messianisme à son tour qui s'inscrit dans la longue lignée antérieure du messianisme, des différentes formes de messianisme occidental, qu'était la colonisation, qu'on apportait la civilisation, ou les guerres napoléoniennes qui apportaient les lumières et les idéaux de la Révolution. Mais de plus, cette idéologie ultralibérale apporte aussi la mondialisation des biens et des capitaux. Et je dirais que si les êtres humains pouvaient être considérés comme des purs biens marchands, je pense qu'ils pourraient circuler librement à travers les frontières. Ça aiderait la compétition universelle. Malheureusement, les êtres humains finissent par s'incruster sur place, demandent des droits sociaux, font des enfants qui veulent aller à l'école, tombent malades et veulent profiter du secours médical. Bref, ils ne se laissent pas réduire à des biens marchands entièrement. Mais on peut évidemment fabriquer les biens ailleurs, là où ces individus se trouvent. Donc pourquoi les laisser entrer chez nous ? Toute cette optique nouvelle est d'autant plus puissante qu'elle ne se présente pas comme une idéologie parmi d'autres, mais comme une soumission aux lois de la nature et de la société. On dit toujours, plutôt que d'entraver les libres forces du marché, vous essayez d'imposer du dehors un projet destiné à apporter la désolation. Je ne pense pas que la crise financière et autres à travers laquelle on vient de passer ait changé quoi que ce soit à cet égard. Alors, un dernier mot sur les frontières. L'ultralibéralisme menace non seulement telle ou telle instance de protection sociale, mais le rôle du politique en général. Il n'y a plus de place pour une instance politique, pour un parlement, pour un gouvernement, une fois que toutes les décisions sont prises à un niveau autre, par des forces impersonnelles, transculturelles, transnationales. Pour cette raison, il est nécessaire de résister, parce que la seule expression de la volonté d'un peuple peut c'est la représentation politique, c'est le pouvoir politique. Cela veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des frontières. Si nous vivions vraiment dans un État mondialisé, il n'y aurait plus de frontières et donc il n'y aurait plus de politique. L'action politique exige des frontières. Donc le vœu qu'on devrait formuler, c'est gardons les frontières, car ce n'est qu'à l'intérieur de frontières qu'on peut agir politiquement, mais détruisons les murs. Permettons la circulation, mais sans renoncer à agir au nom d'un idéal qu'on veut bien se donner.
Merci. Merci, Svetlana Tolorov. qui a donc profité de cette soirée sur les murs pour dresser un réquisitoire contre l'ultralibéralisme auquel je ne m'attendais pas. Est-ce que certains souhaitent poser des questions? Vous êtes les bienvenus. Si vous ne le faites pas, je me chargerai de poser de nouvelles questions à certains intervenants, mais ce serait agréable et intéressant que quelqu'un veuille bien prendre l'initiative, peut-être, de... Oui, madame. Je précise que je ne vois pas grand-chose parce que j'ai les...
On a les taux dans les yeux.
Voilà, oui.
Merci. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt, et merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question en fait sur l'idée de mur. Peut-être revenir en fait sur ce que signifie le mur à l'heure justement où il y a une multiplication des échanges et de la circulation des biens à la fois des personnes et des capitaux. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un mur symbolique, finalement, enfin, comme le disait monsieur, sur l'idée que finalement la mer Méditerranée est aussi un mur symbolique à traverser pour atteindre un autre continent. Et donc, du coup, ma question, ça, c'est plus une remarque sur l'idée que le mur n'est pas forcément quelque chose de matériel, mais aussi donc d'immatériel, de symbolique. Ça paraît peut-être évident, mais peut-être qu'on pourrait revenir un peu sur cette idée-là, en fait. Voilà. Merci.
Oui, certainement. C'est clair que la notion, je ne vais pas philosopher là-dessus, mais c'est clair que la notion de mur est une notion qui tombe en poussière assez facilement quand on la regarde de près. Les murs symboliques, les murs virtuels.
Ou législatifs.
La deuxième grande vague d'immigration vers les États-Unis. Quand les Américains ont instauré...
Oui, bien sûr, il y a une hostilité très importante.
Il y a eu, en fait, déjà à l'époque, un mur de fait,
oui.
qui n'était pas en béton, qui n'était pas en barbelé, mais qui était tout à fait réel et qui... Sylvain Cipel.
Honnêtement, ce n'est pas lié, mais je rebondis juste sur ce que dit Liu Postelvine, c'est-à-dire que pour moi, le mur américain à la frontière Texas, enfin le long de la frontière mexicaine, c'est absolument symbolique de toutes les contradictions des murs qui sont faits. D'abord, c'est un mur complètement poreux parce qu'il n'y a que des morceaux de mur qui sont parfois éloignés de 300 km. Enfin, il y a un trou au milieu de 300 km.
Oui, le mur a progressé. Il
est en train de progresser. Par ailleurs, ceux qui l'ont érigé, c'est-à-dire l'administration Bush, l'administration Bush lui-même, l'a renforcé, mais c'est celui qui l'a vraiment... Mais celui qui vraiment a donné les moyens pour le développer, ça a été Bush plus que Clinton. Bon, peut-être pas. Alors, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que Bush a essayé de réformer l'immigration et que la loi qu'il a proposée consistait à dire on va montrer les dents et désormais... Les immigrés illégaux, c'est terminé, il n'y en aura plus. Et pour pouvoir faire ça, on va légaliser les 14 millions d'immigrés illégaux qui sont sur notre territoire. Et il a fait ça parce que ses amis pétroliers texans, ils ont dans leur raffinerie quelque chose comme 75% d'ouvriers mexicains qui payent beaucoup moins qu'un ouvrier américain, tout simplement parce qu'ils sont immigrés et qu'ils sont illégaux. Et donc, ces gens-là ne veulent pas tellement... qu'on construise un mur vraiment. Mais c'était à un moment politiquement utile de prôner la construction d'un mur aux États-Unis. Ça a disparu dans la campagne électorale, totalement. Plus personne n'y a fait référence. Parce que et Obama et McCain ne voulaient pas en entendre parler. Mais il y avait des politiciens qui ont construit des carrières là-dessus. Mais ce mur est complètement peureux. Il a un aspect peureux. Il s'est renforcé et en même temps, le nombre des immigrants clandestins rentrant sur le territoire américain ne baisse pas.
Mais ce qui est quand même aussi intéressant de voir, c'est que le mur a été construit en 1994, le jour de la signature de l'accord de libre-échange
de l'ALENA
entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, il voulait essayer de temporiser les effets.
Et il voulait dire surtout
de cet accord-là et donc du.
Et montrer aux syndicalistes américains qui étaient vent debout contre l'ALENA que vous voyez, n'ayez pas trop peur, on va préserver l'ouvrier américain.
Et pour compléter ce que vous dites, l'effet majeur de ce mur, c'est bien sûr que donc il rend le
passage
le voyage extrêmement dangereux. Parce qu'il n'y a pas seulement un mur, une barrière, mais il y a aussi tout un mur électronique. Donc des senseurs, il y a des drones qui survolent le désert, parce que c'est là où aujourd'hui les gens passent. Et c'est un désert extrêmement dur, fait d'épineux et bon, avec des températures... comme un désert, mais... ce qui est intéressant de voir, c'est que le mur, c'est là où on parle d'effet contre-productif, c'est que le mur a finalement figé une population de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où il voulait éviter que cette population s'installe. Parce qu'avant, il y avait un système de transhumance entre d'un côté comme de l'autre, enfin d'un côté et de l'autre de la frontière, et les Mexicains ne voulaient pas forcément s'installer, faire leur vie aux États-Unis, et donc ça a figé totalement l'immigrant qui ne fait pas le voyage deux fois dans l'année.
Avant, il y avait des ouvriers, surtout dans l'agriculture, des ouvriers tous les ans, venaient tous les ans faire la saison. Des saisonniers, ils venaient faire la saison et ils repartaient. Oui. Et ça, c'est devenu effectivement pas partout, mais c'est devenu beaucoup plus difficile, quoi.
En fait, une autre question peut-être. N'hésitez pas.
Je voulais dire, peut-être ajouter par rapport à la question, c'est que le mur, c'est un repli sur soi. C'est vrai que aujourd'hui, on a l'impression de pouvoir aller partout dans le monde où toutes les frontières sont ouvertes, etc. Mais il y a des gens qui se replient sur eux-mêmes. Il y a des fractures, il y a des endroits qui refusent ça. Et puis, je crois que le mur n'est pas vraiment une notion virtuelle. Pour le Palestinien, il est loin d'être virtuel. Pour le Mexicain également. Donc c'est vraiment c'est un véritable obstacle.
Contrairement à d'autres murs qui sont effectivement plus virtuels. Et
je voulais juste ajouter que on peut pas dire que on peut voyager dans le monde entier. Les Occidentaux peuvent voyager dans le monde entier. Les habitants des autres parties du monde ne peuvent justement voyager.
Du temps où les pays d'Europe de l'Est, donc il n'y a encore pas si longtemps, les habitants des pays d'Europe de l'Est qui ne faisaient pas partie de la communauté européenne et de ce qu'on appelait l'accord de Schengen parlaient du mur de Schengen.
Oui.
On en parle encore aujourd'hui comme d'un obstacle. Fondamental à la possibilité d'immigrer en Europe de l'Ouest, ce qui n'a pas empêché des quantités de gens d'émigrer. Mais enfin, c'était tout de même symboliquement un mur.
Tout à fait, oui. Oui. Ces murs étaient très réels pour les habitants d'Europe de l'Est qui ne pouvaient pas les traverser, à la fois parce qu'on ne leur permettait pas de sortir, on ne leur permettait pas non plus d'entrer de l'autre côté de cette frontière. Mais je pense que, je voulais dire que, bien sûr, il y a une tendance à pouvoir voyager partout, mais concernant seulement une partie du monde. Les biens marchands voyagent partout, mais pas tous les biens, pas tous les biens de la même manière. De nouveau, il s'agit de privilèges réservés à certains et refusés à d'autres.
Pas seulement occidentaux, tout de même. Les Chinois, les Russes, les Russes qui sont peut-être les occidentaux, je ne sais pas.
Oui, il y a ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas.
S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que les religions sont des murs aussi?
Les religions.
Les religions.
Eh bien, qui veut répondre à cette question? Enfin, c'est quasiment un autre débat qui s'ouvre. Mais c'est vrai que la notion, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que la notion de mur ne tient pas très longtemps quand on l'observe. Beaucoup de murs sont des murs mentaux. La folie érige des murs.
Je ne pense pas que c'est forcément l'opium du peuple, quoi. Mais je pense que, comme beaucoup d'idéologies totalisantes, la propension, effectivement, à ériger des murs mentaux est souvent manifeste dans les religions. Il y a des conséquences des religions. Mais enfin, on a connu, et certains de beaucoup plus près que nous, a dû connaître des religions laïques, qui étaient le communisme, et qui n'étaient pas moins emmurantes que les religions classiques.
Oui. Moi, je dirais que la question, c'est un peu, est-il fécond d'étendre le mot mur comme métaphore à toutes les restrictions d'esprit que l'on pourrait avoir? Et je me dis que peut-être non, parce qu'à ce moment, on dilue l'idée de cet empêchement physique d'aller d'un lieu dans un autre, généralement d'un pays dans un autre. Qui est quelque chose de relativement spécifique. Et puis, c'est un phénomène énorme, n'est-ce pas, tout autour de nous. Il faut se protéger, il faut empêcher, etc. Si on se met à parler de tous les préjugés, en somme, le préjugé ou les traditions qu'on mure, là, ça se dilue un peu dans un mur universel.
En revanche, Tsvetan Todorov, quelque chose de très concret, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à observer deux tensions finalement tout à fait contraires, celle qui procède de l'ultralibéralisme que vous avez évoqué et celle qui conduit à l'érection de murs réels entre les pays. Si je prends l'exemple de l'Inde et du Bangladesh, très peu de gens savent qu'aujourd'hui un mur a été érigé par l'Inde pour se protéger des immigrants bangladais, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui en français, parce qu'ils sont plus pauvres. Mais il est clair que cette barrière qui est érigée entre deux pays qui, vus d'ici, paraissent pauvres l'un et l'autre, est une barrière aussi aux règles qui est érigée face aux règles de l'ultralibéralisme. Et que d'une certaine manière, on pourrait même envisager, pour pousser le paradoxe, de considérer certains de ces murs de manière positive comme étant un outil possible pour les États développer chez eux les moyens de rendre l'idée même du mur caduque au bout d'un certain temps. Est-ce que je suis clair?
De devenir compétitif, c'est ça?
Devenir compétitif et de, oui. Le mur que l'Inde a érigé, sans doute pas de manière continue, bien sûr, le long de la frontière du Bangladesh, peut constituer une forte incitation pour le gouvernement du Bangladesh à trouver les moyens d'accélérer la progression du niveau de vie au Bangladesh de manière que ce mur paraisse sans objet d'ici une dizaine d'années.
Ça paraît vraiment une vision d'un optimisme que je ne te connaissais pas. Mais oui, admettons. Est-ce que c'est paradoxal? Je dirais qu'il y a un paradoxe, mais seulement en surface. Parce que l'ultralibéralisme ne propose pas la libre circulation des personnes dans la mesure même où la personne ne peut pas être réduite à un bien marchand. Si elle pouvait l'être, si les individus n'étaient que de la main-d'œuvre, je pense que, au nom de cette idéologie, la circulation serait bien plus grande. C'est du reste la raison pour laquelle les Mexicains se retrouvaient aux États-Unis ou les Algériens en France. C'était parce que les grandes usines avaient besoin de main-d'œuvre bon marché. Mais on s'est aperçu que ce n'est pas le cas. Je veux dire, cette réduction des individus à des biens marchands ne peut jamais être intégrale. L'être humain se rebiffe et ne se laisse pas entièrement réduire à cela, et donc commence à avoir d'autres exigences. Dans ce cas, il est plus rentable de délocaliser, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de produire chez eux, et donc de priver nos ouvriers marocains pour nourrir nos ouvriers chinois.
Moi, j'ai un très bon exemple. Les Israéliens avaient des ouvriers palestiniens pendant, disons, une décennie et demie, jusqu'aux années 80, jusqu'à la première intifada. Mais à Tel Aviv, il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers palestiniens qui venaient dans les usines de Tel Aviv, tous les jours. Certains dormaient dans des dortoirs qui leur étaient organisés. Jusqu'à la première intifada, c'était comme ça. À un moment, le Premier ministre Yitzhak Rabin décide, après Oslo, en fait, il décide, bon, on va se séparer. Donc, il renforce le mur. Avant de construire un mur, les barrages, etc. Et donc, il se passe des ouvriers palestiniens. Donc, que fait Israël ? Ben, ils ouvrent les frontières à l'immigration. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, il y a aujourd'hui quelque chose comme 300 000 Malais, Philippins. Il n'y a pas un bourgeois israélien qui n'a pas une bonne Philippine. Il y a des Malais, des Philippins, des Roumains, des Polonais, évidemment, etc. etc. Dans l'agriculture, beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Et donc, ça a commencé en 94, 95. Nous sommes aujourd'hui 14 ans plus tard. Et il y a la crise qui est venue. Et il y a un an, ils ont donc décidé qu'il fallait se séparer. Israël est un des très rares pays où ils ont instauré un système assez extraordinaire qui est que le permis de travail et de résidence est la même chose. C'est-à-dire que si on perd son travail, un immigré, s'il perd son travail, il perd dans la seconde son droit de résidence. Donc il devient clandestin. Donc on peut très bien être un ouvrier légal, mais si on n'a plus de travail, on est dans la seconde clandestin. Et donc, ils ont décidé de s'en séparer. Et évidemment, ces gens qui sont des Malais, des Philippins, des Vietnamiens et autres ont commencé à s'organiser. Et il y a eu des Israéliens au cœur un peu plus... voilà, qui ont commencé à les aider. Et c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire... Et ils n'ont pas dit « oui, bah d'accord, vous n'avez plus besoin de nous, on s'en va ». Ils ont dit « non, on veut continuer à gagner de l'argent ».
Y a-t-il d'autres... Oui.
Donc, ça fait 20 ans que le mur est tombé à Berlin. Et on voit le changement de mentalité par rapport aux nouvelles générations et aux anciennes générations, par rapport à l'Allemagne de l'Ouest et à l'Allemagne de l'Est. Malgré tout, les anciennes générations qui ont vécu la séparation avec le mur ont encore cette distance entre les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest. Il y a une communication qui se fait difficilement, mais qui tend à s'effacer avec les nouvelles générations. Est-ce qu'on peut imaginer que ça sera de même pour la Palestine et pour Israël, alors même que le conflit est beaucoup plus violent et que les séparations et les problèmes sont beaucoup plus profonds que ce qu'il y avait en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. Est-ce que même si le mur tombe, il y aura vraiment une réconciliation possible ?
D'abord, je ne suis pas un bon spécialiste de l'Allemagne, donc j'ai du mal à faire la comparaison. Et sans se défiler, je pense qu'il y a un problème, il y a le nœud du problème, c'est que la possibilité... Je pense que la question de la paix n'est plus à l'ordre du jour. Voilà. Elle n'est plus à l'ordre du jour. Je pense que... Donc, tout ce qui est réconciliation, c'est... Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est l'évacuation des territoires palestiniens. C'est-à-dire le fait que les Palestiniens ne soient plus soumis à une occupation. C'est ça, la question clé. S'il y a fin de l'occupation, alors peut-être, et peut-être que non. Mais, en tout cas, la possibilité d'aller vers quelque chose qui serait la paix puis la réconciliation. Je pense que ce qui s'est passé depuis 4-5 ans, vraiment, a fait que là, tout de suite, ça me semble très extravagant d'imaginer une sorte de paix merveilleuse. Non, je pense que ça n'aura pas lieu comme ça. En revanche, je veux dire, je l'ai vu, moi, en 93-94, c'était stupéfiant. C'est-à-dire, la capacité des uns et des autres à aller vers l'autre était tout à fait vraiment étonnante, quoi. Donc, je sais que ça n'est pas exclu. Donc, on peut parfaitement imaginer, mais aujourd'hui, enfin, je sais pas, je crois que c'est Aristote qui disait qu'on ne peut pas imaginer une société sans esclaves. Ben, c'est un peu pareil. On peut pas, je ne vois pas comment ça se passe aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, le hiatus est énorme. Je pense que les haines sont recluses. Je pense que du côté israélien, c'est développé. Je voulais parler de ça tout à l'heure, mais c'est développé une mentalité. Je pense que dans la société israélienne, la propension coloniale l'a emportée. Elle n'était pas la seule. Mais là, elle est dans une phase où elle a vaincu les autres propensions de cette société. Sortir de ça passe par un coup sur la tête, par une défaite. Car quitter les territoires, ça voudra dire qu'on a perdu. On n'a pas voulu le faire pendant tant d'années. Et donc, je ne sais pas comment cette défaite influera sur la société israélienne, j'en sais rien, il y aura une forme d'OL, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer dans la spéculation. Mais je sais qu'ensuite, des choses deviennent possibles, et que donc, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, je vois vraiment, c'est difficile à imaginer, mais il y a une proximité, c'est des langues qui se ressemblent tellement, ce sont des... Je veux dire, la part levantine d'Israël est très importante. Elle se voit dans la musique, elle se voit dans la nourriture, elle se voit dans le cinéma, elle se voit dans énormément d'éléments. Donc, voilà. Mais les préalables sont très difficiles. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Une autre question, monsieur.
Oui, je voudrais revenir un peu sur la notion de mur virtuel. Bon, ça a été repris effectivement par madame au départ. Vous avez dit effectivement que les murs étaient dans les têtes. Et à la lecture du livre de Sylvain Sipel, on se laisse porter effectivement d'un mur très concret en béton à ces murs qui sont dans les têtes. Et sur la fin de votre exposé, monsieur Todorov, vous disiez effectivement qu'on ne pouvait pas assimiler les uns aux autres. Ceci dit, je crois que les murs virtuels ont une force que les murs de pierre n'ont pas. C'est qu'ils ne créent pas d'antagonisme. Ils sont dans les têtes de ceux qu'ils défendent. Ils sont dans les têtes de ceux contre qui on se défend. Et de ce point de vue, ils ne sont pas une cible matérialisable et matérialisée d'opposition. Peut-être que pour le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, on aurait pu aussi fêter le 50e anniversaire à peu près du film de Buñuel sur... l'ange exterminateur de ces murs infranchissables, tellement dans les têtes des gens que... Et je crois qu'il y a des murs sociaux, effectivement, qui sont moins visibles et, de ce point de vue, peut-être plus lents, qui seront plus difficiles à dépasser, à contourner ou à détruire.
À chaque jour, sa peine.
Mais vous avez bien compris que c'est l'objectif de Books que de repousser les murs qui sont dans nos têtes. Ouais. Autre question.
Je voulais dire un mot à propos de la question sur l'Allemagne et le maintien des murs une fois que des murs dans la tête, justement, des préjugés, disons, parce que j'ai un exemple que je trouve amusant et parlant qui ne concerne pas l'Allemagne, mais quelqu'un qui habitait un pays de l'Est et qui est allé vivre depuis une dizaine d'années au Canada, donc dans un cadre tout à fait différent. Dans les pays de l'Est, la différence entre vérité et mensonge ne comptait plus. On disait ce qui convenait à un moment donné. Et donc, se soucier si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'était vraiment très secondaire. Donc, les gens disaient des choses qu'ils croyaient appropriées à chaque moment. Cet ami m'a raconté... qui est allé vivre donc au Canada, qu'il s'est passé 7 ans avant qu'il ne commence à dire toujours, à répondre vrai quand on lui posait une question, plutôt que de dire n'importe quoi, croyant satisfaire l'attente de son interlocuteur. Donc au moins 7 ans.
Tous les espoirs sont perdus.
Encore une autre question? Ben nous allons peut-être. Enfin, évidemment, moi j'aurais d'autres questions à poser, mais je ne veux pas non plus, comme je vois qu'il se fait tard. Merci Emmanuel Pagnin pour le mot de la fin.